Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de celui qui est responsable du harcèlement dont est victime Mamie Lamy, c'est Morren.
Salut à tous.
Bon Morren, t'es conscient que là, à cause de toi, Mamie il est harcelé sur YouTube, etc. Par tes viewers, donc il va falloir que tu fasses quelque chose.
Le pauvre petit chou. Ouais, je suis désolé Mamie, mais je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
Oui, voilà, que au moins tes viewers soient au courant que t'es pas mort, quoi. Ça,
normalement, dans la semaine, il y a une vidéo qui arrive.
Normalement. Ils disaient ça il y a 2 semaines, hein, déjà.
Normalement. Mais je suis en train de la monter, là. Donc, normalement, ça devrait aller.
Ok. Bon. Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de Parrish, de Superhot. Du côté des news en général, nous vous parlerons de Steam qui devient une poubelle. Vous reprendrez un peu de Doritos avec les gens d'Indrop dans la mare. Pokémon qui organise de nouveaux tournois un peu chelous. Enfin, c'est ce que dit Morren, hein, je cite. Bientôt 6 millions de dollars pour le prize pool de l'International 2014, donc qui est un tournoi dédié à Dota 2. Ça te fait envie, ça, Morren, hein?
Ouais, tellement.
Le doigt d'honneur de la semaine, ça, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Morren, hein. Me décharge de toute responsabilité. La Xbox One qui retire Kinect.
Ouais.
Les remakes HD de Halo, ça, c'est la rumeur de la semaine. Toujours à propos de Halo, on a enfin une idée approximative de quand sortira Halo 5. Et aussi, il y a du Far Cry 4, je crois, avec Vladimir Poutine avec des cheveux sur la couverture, mais on verra ça tout à l'heure. sans oublier notre jeu du moment. Alors, pour le coup, c'est pas un jeu récent, désolé, mais comme Morren n'est pas là la semaine prochaine et que je ne suis pas sûr que voilà mes autres comparses auront joué, je vous réserve mon jeu pour la semaine prochaine. Et le jeu de Morren, donc, c'est un jeu un peu ancien, mais après tout, voilà, s'appelle Lego Seigneur des Anneaux. Et
absolument.
Sachant que bon, la licence Lego en général produit des bonnes choses, on verra ce que ça donne, n'est-ce pas ?
Exactement.
Ok, donc on commence par Parrish. Alors, moi ce qui m'a poussé à vous parler de Parrish cette semaine, c'est pas tellement son originalité, parce que alors dans le fond, je veux dire, c'est un roguelike en vue du dessus isométrique qui, ma foi, m'a l'air tout à fait classique. Bon, je veux dire, roguelike, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc, c'est tu meurs une fois, bah, t'es mort. Voilà.
Ouais.
Sachant que, d'après ce que dit l'auteur, sans mourir, il faudra à peu près 1 heure pour finir le jeu, quoi. Donc, ça veut dire que tu vas sûrement mourir beaucoup.
Ouais.
Et donc, moi, ce qui m'a attiré plutôt sur ce projet, c'est sa direction artistique. Vous le savez, vous avez suffisamment écouté les podcasts pour connaître un peu mes goûts, n'est-ce pas? Dès qu'il y a une patte visuelle un peu marquée, à fortiori si elle est un peu colorée, ça m'intéresse, et là c'est le cas. Et ce qui m'a attiré surtout, c'est il y a une espèce de contraste, si tu veux, qui fait que on a des niveaux en surface extrêmement colorés, puis dès qu'on descend en tout ce qui est catacombes, etc., là on entre dans le vif du sujet, quoi, et on a des niveaux beaucoup plus sombres à la Diablo, enfin les deux premiers, on s'entend. Et je trouve le contraste, en tout cas, assez intéressant, quoi. Et d'une manière générale, la direction artistique, avec des couleurs un peu pastel, etc., enfin, c'est très attirant visuellement, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est complètement pastel, comme tu le dis. Moi, j'ai juste un petit bémol. J'ai un petit peu peur que le jeu soit un peu mou.
C'est l'animation un peu molle du genou qui t'a fait peur, c'est ça ?
C'est ça. Alors, c'est très beau, c'est très joli. C'est en tout cas, voilà, on le reconnaîtrait entre mille. Après, voilà, j'ai peut-être un petit souci de ce côté-là, c'est le gameplay, parce que c'est bien joli d'avoir de l'esthétique très sympa. Après, il y a aussi un autre pan du jeu qu'il faut nous dévoiler, c'est son gameplay. Pour le moment, dans 1 minute 30 de vidéo, on a vu beaucoup de marches et pas beaucoup de combats. Alors que c'est ça qu'on nous vend quand même, système de combat qui est inspiré de Dark Souls. Alors moi, j'ai bien envie de le voir, tu vois.
Bah, le truc, c'est que Dark Souls, c'est mou du genou aussi, quelque part, mais le truc, c'est que c'est un jeu en 3D. Donc, t'as plein de paramètres à gérer que tu ne gères pas dans un jeu en vue isométrique. C'est bien ça, le problème. Moi aussi, là où je suis curieux, c'est... il parle de rencontres aléatoires uniques, etc. Oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de promesses, on va dire. Mmh. Dans tous les cas, c'est un projet que je vais surveiller. Bon, ça a été financé sur Indiegogo, il me semble.
Absolument. C'est, il demandait 1 500 $, il en est à 3 665.
Bon, très clairement, à ce prix-là, je veux dire, il bosse gratos. C'est oui, en gros, c'est pour clair. Se payer ses logiciels pour finir son jeu, quoi. Donc, bon, honnêtement, c'est un projet. Je vais pas dire amateur parce que je trouve ça un peu méprisant, mais on va dire que c'est un projet fait dans un garage sans de moyens, quoi. Mais qui est suffisamment intéressant en tout cas sur le plan visuel pour qu'on vous en parle. Et moi, il y a de fortes chances que voilà, je surfais ça de très très près, n'est-ce pas?
Ouais.
Un autre projet, alors là pour le coup, c'est plus du tout le même ordre de grandeur en termes de budget.
Oui.
Ça s'appelle Super Hot. Ouais, parce qu'il répète comme ça pour que ça trempe bien dans le crâne, ça te reste. Donc Super Hot, qu'est-ce que c'est?
Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu développé par des Polonais qui est actuellement en phase de financement sur Kickstarter. Ils demandent d'ailleurs 100 000 $, ils en sont déjà à 150 000. Il faut savoir que Super Hot, c'est un jeu qui a déjà fait parler de lui au moment où il a été créé. C'était un prototype qui a été créé en 7 jours pour un événement, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bref, un événement qui voulait...
C'était une game jam, non? C'est ça
Oui, c'est ça, une game jam spéciale pour les FPS, où il fallait créer un FPS de toutes pièces en 7 jours. Donc ça, ils ont réussi à créer Super Hot.
Vous partez pas, c'est un FPS original, j'insiste,
oui,
original.
Exactement. Et donc le concept en fait de Super Hot, c'est... un FPS où tout se déroule en slow motion, au ralenti. C'est-à-dire que le temps s'écoule quand vous bougez dans le jeu. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des personnages devant vous qui vous tirent dessus. Tant que vous bougez pas, le temps ne s'écoule pas. Ce qui fait que...
Disons pour être précis, il s'écoule, mais très lentement, quoi.
Et l'idée, en fait, c'est donc d'éviter les balles qui vous arrivent à la figure et donc de récupérer un flingue qui est dans le niveau pour vous débarrasser de vos opposants. Et alors forcément, comme ça, c'est pas très très visuel, je vous encourage à aller voir la vidéo du prototype qui est beaucoup plus parlante d'un seul coup, mais c'est quelque chose d'assez... original, enfin en tout cas utiliser le slow motion de cette façon-là dans un FPS, je trouve ça assez assez intéressant.
Disons que ça donne un côté puzzle game au FPS en fait.
Ouais.
Parce que voilà, quand tu bouges pas, donc t'as les projectiles qui s'approchent lentement de toi comme ça. Mm-hmm. Puis dès que tu rebouges normalement, bah les projectiles arrivent à une vitesse folle sur ta gueule quoi. Donc l'idée c'est que vraiment identifier par où arrivent les projectiles. Aller dans les directions où partent les projectiles, puis se réarrêter, parce que, évidemment, les mecs, ils essayent, ils te suivent à la trace, quoi.
Bien sûr.
Donc, il y a vraiment un côté puzzle, en ce sens que, aussi, tu vas devoir choisir les cibles que tu vas éliminer en priorité, quand tu vas récupérer un flingue. Les niveaux sont conçus de telle manière qu'il y a un game design qui te pousse à regarder vraiment ce qui se passe. Mais en même temps, le fait que les projectiles soient fortement ralentis, mais avance quand même un tout petit peu quand tu t'arrêtes. Ça te laisse le temps de réfléchir, mais pas trop quand même, parce que tu vois la balle qui se rapproche très très lentement comme ça. Et ça rajoute une pression qui est pas mal. Alors, c'est un projet qui a eu un énorme succès. Hein. Je crois que ça fait 2 jours qu'il est lancé. Il est déjà à 150 000 $, il me semble, alors qu'il en demandait 100 000. On vous incite à aller voir, ne serait-ce qu'aussi sur le plan visuel. Alors, c'est extrêmement dépouillé... visuellement, mais ça fait partie aussi du charme de l'expérience, je trouve.
Ouais. Mais il y a aussi, si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que le prototype est testable en fait sur Internet depuis votre navigateur, et donc vous permettra de vous rendre compte un petit peu du concept et de ce qu'on peut faire avec, sachant qu'avec tout cet argent, il compte voilà avoir beaucoup plus de niveaux, des personnages, enfin des PNJ différents, des armes différentes, même des grenades. Alors des grenades en slow motion, ça doit être assez impressionnant quand même. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très très sympas avec Super Hot. Le seul la petite inquiétude qu'on pourrait avoir par rapport à ce jeu, c'est que à mon avis, avec un concept pareil, le jeu peut être assez court. Mais bon, voilà, c'est après les FPS en puzzle game, le voilà, c'est généralement assez court moi de mémoire, Antichamber et Portal sont des jeux voilà, pas très très longs mais assez intenses d'un point de vue de l'expérience. Donc
bah déjà le prototype était extrêmement court, hein, c'était moins d'une heure il me semble de mémoire. Mais c'était effectivement très intense. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment ils vont réussir à renouveler l'expérience. Alors, on a eu déjà quelques pistes, notamment le fait de rajouter un katana, tu vas pouvoir couper les balles, etc. Ça, c'est cool.
Ouais.
Kill Bill, j'écris ton nom, n'est-ce pas?
Exactement.
Voilà. C'est mon interrogation. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à renouveler les puzzles? Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça, en tout cas. Bon. On passe à la suite, Morgan?
Ouais.
Nous allons maintenant parler de cette poubelle qu'est Steam. Je vous mettrai dans la description du podcast un lien vers un article publié par Gamasutra. Et dans cet article, en gros, on voit que Gamasutra fait les stats des sorties de jeux sur Steam. Et sans aller dans les détails parce que c'est chiant, en gros, le début de 2014, c'est là qu'on vient de vivre, ben y a eu plus de jeux sortis que dans tout 2013.
Ah oui.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une grosse mue de Steam récemment, et je pense que tous les utilisateurs de Steam l'ont remarqué. On pensait peut-être pas que c'était à ce point. Mmh. Alors, moi, pourquoi je vous parle de cette news cette semaine? Parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule. J'en ai marre de voir sur la page d'accueil du Steam des jeux de merde développés à la va-vite sur RPG Maker et compagnie, avec des assets trouvables un peu partout, que franchement tu vois des projets amateurs qui sont pas vendus sur Steam qui leur foutent la honte, quoi. Et d'un fiage, j'ai écrit ton nom, alors pour le coup celui-là il mériterait d'être vendu. Par contre, j'en ai marre, tu vois, de voir se mettre en place sur Steam ce qu'on observe un peu, tu vois, sur mobile. C'est-à-dire que plein de projets opportunistes, tu vois, qui essayent de retirer leur petite épingle du genre, en se disant bon, ça a été développé vite fait, mal fait, tu vois, mais avec un peu de chance, il y a sûrement un ou deux pigeons qui vont acheter le truc.
Ouais.
Et on voit de plus en plus ça sur Steam, enfin des espèces de déchets comme ça qui apparaissent sur Steam, et ça me brise les burnes parce que tous les projets intéressants sont noyés dans la masse de merde. C'est un peu ce qui se passait sur le Xena, par exemple.
Mmh.
Alors, là encore, on se dit qu'il y a Greenlight qui filtre un tout petit peu. Et encore, je dis bien un tout petit peu, parce que t'as bien l'impression en ce moment que Valve, en fait, dès qu'un projet a un peu de vote, il débloque automatiquement le truc, quoi. Et quand ils vont complètement retirer Greenlight, je me dis, mais... Ah ouais, ça va être chaud, là. Tu t'imagines tout ce qui sort là, qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde pourra sortir tout et n'importe quoi sur Steam, quoi.
C'est clair. Je suis assez d'accord sur la mutation de Steam, sur le fait qu'on n'est plus du tout dans le modèle qu'on pouvait connaître ne serait-ce qu'il y a un an, voire deux ans. Maintenant, en fait, c'est très étrange, mais quand t'arrives sur la page d'accueil de Steam, la première chose que tu vois, c'est les jeux les plus vendus. Et c'est même plus les choix, en fait, de la rédaction de Steam, en réalité. C'est, voilà, c'est ce qui est le plus vendu, c'est le plus intéressant, donc Steam le met en avant. Et donc, il faut chercher toi-même pour voir les nouveautés. Alors, sans oublier que maintenant, les nouveautés, c'est tout et n'importe quoi, c'est un peu compliqué de réussir à trouver son bonheur dans autant de jeux. Je crois que c'est un truc genre 150 jeux qui sont déjà sortis là depuis janvier. C'est assez impressionnant, et moi je me dis que à l'époque où je pouvais faire confiance au choix de Steam sur quoi acheter, enfin par rapport au choix de la communauté aussi, là actuellement c'est plus possible, en fait, parce que il y a trop. Il y a juste beaucoup trop, et on peut plus enfin moi maintenant j'ai du mal à me balader sur Steam et tenter de trouver, en fait, un truc, enfin un jeu qui pourrait m'intéresser comme ça, sur me renseigner dessus. C'est assez compliqué maintenant, en fait. J'ai l'impression que je passe beaucoup plus par ailleurs que Steam pour acheter sur Steam, si tu veux. C'est genre je vais voir les campagnes Kickstarter, par exemple. Souvent il y a des green lights qui sont associés, et c'est ça qui me donne envie d'aller sur Steam voir ce qui se passe concernant ce jeu-là. Je regarde aussi sur les sites internet dédiés aux jeux indépendants, par exemple, parce que maintenant il y en a tellement sur Steam que tu sais plus lesquels sont véritablement bons. Donc du coup c'est t'as l'impression que c'est juste une plateforme où t'as un espèce de dumping de jeux qui s'effectue, et tu tu n'as que ça et tu as besoin d'un avis extérieur en fait pour te décider. Alors que c'était pas le cas il y a encore 2 ans quoi.
Voilà, et puis bon. Je veux dire, moi je suis pas sûr que Valve ait gagné dans cette histoire parce que à force de laisser sortir tout et n'importe quoi, sachant qu'en plus il y a d'autres problèmes à côté, hein, on parle pas des early access.
Oui.
Où Valve a une politique plus que floue, c'est peu de dire en la matière. En gros, eux ils te disent clairement, par exemple sur les early access, ils te remboursent pas si il y a un problème. Bon, dans les faits, si les gens gueulent un peu, ils remboursent, mais voilà. Enfin, il y a de moins en moins d'intérêt, je trouve, à acheter sur Steam parce que même sur les soldes, c'est plus les plus intéressants en fait.
Ouais.
Le Humble Bundle est carrément plus intéressant. J'ai vu sur Good Old Games pour les jeux indépendants, ils ont fait des super promos récemment. T'as les sites de clés aussi. Enfin, il y a plein de trucs alternatifs pour payer ces jeux moins chers. Donc, Steam est moins intéressant au niveau des prix. Steam est un gros boxon. Et t'as plus ce côté que tu pouvais avoir à une époque où quand t'étais indépendant et que tu sortais sur Steam, bah, ça veut dire que au moins il y avait un seuil minimal de qualité. Je dis pas que tous les jeux qui sortaient étaient bons, mais en tout cas le jeu était fini correctement, etc. Alors que là, tu vois des trucs qui sortent, mais tu dis mais sérieux, des trucs ça a dû être développé en 4 jours, tu vois. Enfin, t'hallucines quoi. Sur ce qui sort en ce moment sur Steam, tu hallucines. C'est l'application store d'Apple, c'est n'importe quoi. Et on a vu ce que ça a donné comme phénomène sur l'Apple Store. Je veux dire. Regarde tous les phénomènes de mode et de suivisme qu'il y a sur l'Apple Store parce que c'est tellement difficile de se démarquer que du coup quand il y en a un qui marche, bah on copie.
C'est clair.
Si c'est pour se retrouver avec ça sur Steam, merci Valve quoi. Bah,
ça plus le véritable fléau que représente le modèle économique du free to play avec 15 000 pubs plus 15 000 incitations d'achat. Ça on peut aussi arriver là-dessus sur Steam avec ce phénomène-là. J'ai l'impression, c'est-à-dire que à force quand on a trop de jeux, en fait, la seule manière qu'on a de se démarquer, c'est d'être moins cher. Pour se vendre plus. Et du coup, comment on fait pour baisser les prix? Soit on balance du placement de produits de partout, de la pub un petit peu partout. Soit on devient free to play et on balance à mort sur le shop interne du jeu. Et ça, bon, on en a déjà parlé longuement dans différents podcasts, c'est pas forcément la meilleure chose qui puisse arriver à un jeu vidéo. Surtout sur une plateforme comme Steam, qui n'est pas forcément faite pour ça, quoi. Enfin, où on n'a pas forcément l'habitude d'aller chercher ce genre de choses. Donc il faut... Voilà, c'est... Je trouve ça assez étrange. J'ai l'impression qu'ils sont dans la course aux chiffres, en disant, ouais, vous avez vu... En 5 mois, on a publié beaucoup plus de jeux que dans toute l'année 2013. J'ai l'impression que c'est juste un espèce de communiqué de presse, en fait.
Alors, moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense surtout qu'ils n'ont pas envie, en fait, de contrôler. C'est tout simple. À la base, pourquoi ils ont mis en place Greenlight ? Parce que, déjà, il y avait des plaintes de certains développeurs. Et ensuite, parce que, moi, je vois que chez Valve, ils ne veulent pas, en fait, se mêler de ça, quoi. Et c'est un des problèmes que j'ai avec Valve, c'est que de moins en moins, en fait, ils assument ce qui se passe dans leur boutique. Alors que, merde, quand même, c'est leur boutique, quoi. À un moment donné, il faudrait peut-être avoir une politique respectueuse des clients. Attends, une seconde, on me dit que Thanos arrive, là. Non, mais voilà, à un moment donné, à force de sauter de la gueule des clients, parce que j'ai de plus en plus du mal avec la politique de Valve, c'est pour ça que j'achète de plus en plus de jeux sur des plateformes concurrentes respectueuses des gens, notamment Good Old Games, hein, j'assume que je fais de la pub. À un moment donné, faudra pas s'étonner sinon d'utilisateurs baissent. Bah, heureusement qu'il y a le service, hein, tu vois, en fait. Pour moi, en fait, la seule chose qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je continue d'utiliser Steam, c'est le service. C'est tout. Et Dota 2.
Oui. Voilà. Bon. Il y a de ça aussi.
Quelque chose à ajouter, Mangren?
Non. Il n'y a plus grand chose à dire.
Voilà. Donc, nous allons passer à une vidéo qui a été postée cette semaine. Alors, en fait, c'est une grosse pub là aussi, hein. C'est pour les youtubeurs de Un Drop dans la Mare. Pourquoi on vous parle de cette vidéo? Parce qu'elle parle justement d'autres youtubeurs. Comment ils s'appellent ces deux personnages là? Bon, peu importe, on va pas les citer, hein, parce qu'ils ne méritent pas de toute façon. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle démontre très clairement les mécanismes de pub qu'il peut y avoir. Bon, après, je veux dire, c'était un peu obvious dans cette vidéo-là. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo peut servir de base pour parler de plein de cas de youtubeurs qui, en gros, font de la pub sans le dire. Et en plus, c'est très bien argumenté, etc. Alors, Morgane, que tu penses de cette vidéo?
Bah, j'ai trouvé ça intéressant, même si bon, je l'avais noté depuis le début, en fait, quand j'ai vu cette vidéo. En fait, c'est pas comment dire, c'est un diptyque de vidéo. C'est-à-dire que t'en as une première qui fait l'apologie du PlayStation Plus, et t'en as une seconde qui se termine en fait avec un jeu concours pour gagner. Je crois que c'était une PS4 ou et un abonnement PlayStation Plus ou un truc dans ce genre-là.
Ouais, un truc comme ça. Ouais.
Bref. Donc là, très clairement, on voit que les choses ne se font pas par hasard. C'est-à-dire que très clairement, il y a commande de la part de Sony en disant, voilà, tu parles très bien de mon PlayStation Plus, et moi, après, je te donne des petites chips à donner à tes abonnés.
Surtout que la vidéo a été tournée devant les locaux d'une société qui est spécialisée dans placer un produit. Donc, voilà, on peut difficilement plus faire obvious quoi au niveau pub. Voilà. Donc,
c'est très clair ce qui s'est passé. Après, le véritable problème là-dedans, c'est que on prend les gens pour des cons en fait. C'est-à-dire que on ne dit pas ce que c'est parce que c'est tellement simple quand on a une base d'abonnés qui a, je sais pas, j'imagine que la moyenne d'âge là-bas, ça doit être de 15 ans à peu près. C'est tellement simple de leur faire prendre des vessies pour des lanternes, ou simplement de... Enfin, moi, je sais pas, à cet âge-là, je pensais que, voilà, c'était génial, parce qu'il y avait un jeu concours, c'était très cool et tout, et que, vu qu'ils disaient que c'était très bien, c'était forcément bien. Donc, voilà, s'il y a des... On pollue un petit peu la tête des gens qui n'ont pas forcément encore de distance critique là-dessus. Alors, je dis pas que les gens de 15 ans... n'ont pas le potentiel de comprendre ces choses-là. C'est juste que, voilà, il y a forcément des gens qui n'ont pas compris où on voulait en venir là-dedans. Donc, c'est... Voilà, c'est... J'ai même pas envie de dire que c'est dommage. C'est, je trouve ça juste... c'est pas honnête, quoi.
Et surtout, c'est là, je veux dire, cette vidéo-là, c'est évident, quoi, je veux dire, à un moment donné, bon, on peut pas faire plus obvious que ça, et c'est justement peut-être le reproche qu'on pourrait faire à cette vidéo. Mais justement, moi, je pense qu'il a fait exprès de choisir une vidéo, c'est obvious.
Ouais.
Ça permet de bien pointer certains trucs, la manière dont on présente positivement certains aspects du produit, etc. Et il y a des vidéos qui font exactement la même chose, sauf que c'est plus subtil.
Ouais.
Sauf que le gars fait passer ça pour ah tu vois je joue au jeu ouais franchement il est génial ce jeu, hein, je suis en mode on est entre nous entre potes tu vois enfin et le problème que j'ai avec pas mal de youtubeurs c'est que bon outre le fait que je trouve leurs vidéos ne sont pas intéressantes mais ça c'est un autre débat mais il y a du placement de produits à longueur de temps sur YouTube et pourquoi parce que comme on l'a dit très souvent, le système de YouTube est malsain. Ça repose entièrement sur la publicité, sur les vues. Pour faire des vues, il faut des exclus. Pour avoir des exclus, faut être pote avec les éditeurs, etc. Donc forcément, à un moment donné, y a une tentation qui fait que voilà. Et j'espère que des modèles, comme on peut le voir, par exemple avec Usul, qui a lancé des nouvelles vidéos, cette fois basées sur la politique, mais qui sont très bien. Je sais pas si tu les as vus, Mandraine, mais...
Non, j'ai pas eu l'occasion encore.
Ah ben, je te conseille d'aller voir, parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait, et surtout, pour lancer ces vidéos-là, il est allé sur un site qui s'appelle donc Tipeee, qui permet donc de financer tes youtubeurs préférés. Alors tu peux choisir de donner genre 5€ par mois, tu vois, etc.
D'accord.
Et 5€ plus 5€ plus 5€ plus 5€, ben ça fait un abonnement qui fait que au bout à la fin du mois, le youtubeur peut gagner à peu près correctement sa vie, tu vois. Usul notamment, il est à 3000€, je crois, un truc comme ça.
Ah oui.
Bon, sachant qu'il doit payer une autre personne quand même pour faire le montage, etc. Mmh. Mais voilà, on parle de ça parce que je pense qu'il est intéressant pour les youtubeurs qui font vraiment du bon travail de les soutenir financièrement. Je pense que rien n'est gratuit en ce bas monde et que, en tout cas, la seule chose qui peut justifier qu'on paye, c'est la qualité. Aussi, pourquoi on cite pas les noms? Parce que c'est un peu comme ce qui s'était passé avec le Doritos Gate et certains journalistes français. Hein, on va pas les citer, tout le monde sait de qui on parle, n'est-ce pas? Ou finalement, tout le monde s'est concentré sur un journaliste en particulier, qu'on a tendance à oublier qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont dans des cas peut-être un peu moins graves, mais qui sont quand même, on va dire, qui ont une pratique du journalisme qui est assez discutable, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça. Le problème, en fait, c'est qu'on on polarise trop sur une personne, et du coup, tous les autres qui font à peu près la même chose, on les oublie.
Tout simplement.
C'est... qui est dommage, parce qu'en fait le problème c'est la pratique, c'est pas la personne. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce qui se passe sur YouTube en fait. C'est-à-dire que les éditeurs ou voilà les communicants de base, les gens qui ont besoin de faire de la pub à un moment donné sur un produit, peu importe lequel, hein, c'est ça marche pour le jeu vidéo comme pour le cinéma. D'ailleurs, il y a eu un exemple très récemment avec la même personne dont on est en train de parler avec du cinéma. Bref, ce qui se passe en fait, c'est que c'est les personnes qui ont besoin de communiquer sur un produit cherchent les personnes qui ont les la base de fans la plus élevée et la plus appropriée pour le produit qu'ils veulent vendre. C'est-à-dire que là, typiquement, Sony avait besoin de parler à une moyenne d'âge plutôt basse, la moyenne d'âge du gamer qui entre dans sa vie de jeu vidéo avec une nouvelle console probablement à la fin de l'année. Et ils se sont dit, voilà, il y a forcément une personne, ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a certainement eu d'autres cas, qui va pouvoir me permettre de toucher très rapidement et très facilement cette base de joueurs. Qui c'est et combien ça coûte? En gros, voilà, tu regardes quelqu'un sur YouTube maintenant parce qu'ils font ça, tu regardes les abonnés, et ensuite tu lui proposes à cette personne un deal avec de l'argent à la clé, évidemment, et quelque chose pour faire passer un petit peu la pilule auprès des abonnés, si tu veux. Donc un jeu concours, typiquement. Et ça se fait sur les sites internet, ça se fait chez les youtubeurs maintenant. Voilà, tout ça, c'est parce que le marketing a besoin de communiquer. Et on cherche une base de plus en plus élevée. Donc c'est évidemment, on va chercher les plus gros youtubeurs qui, certes, gagnent de l'argent par rapport à leur pub, mais il y a aussi moyen de les débaucher, entre guillemets, avec des contrats, j'imagine, qui se comptent en milliers d'euros.
Non, mais surtout, ça leur permet, via ces contrats, d'avoir des exclusivités qui font de la vue.
Voilà.
Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est la vue. Bien et pour sûr. Avoir de la vue, bah, il n'y a pas 36 solutions, hein. Je veux dire, tu as des exclus, allez, ouais, on va jouer à Call of, le prochain Call of en exclu sur ma chaîne, etc. Encore une fois, on va pas citer le nom, hein. Voilà, mais c'est ça le problème. Comme la guerre du clic, n'est-ce pas, sur les sites d'actualité, bah c'est la même chose en fait. C'est les mêmes problèmes arrivent au même résultat, quoi, j'ai envie de dire, que ce soit pour les youtubeurs ou pour les journalistes.
C'est-à-dire que de base en fait sur ces vidéos-là, le marketing sait qu'il y aura au moins 1 million de vues sur concernant certains youtubeurs. Donc forcément, ils se disent c'est du pain béni. Il y a au moins 1 million de personnes qui vont voir ma pub déguisée ou pas sur le PlayStation Plus.
En plus, ils pensent que le gars, c'est leur pote. Donc, bon.
Ouais. Évidemment. C'est parce que maintenant, vu que les youtubeurs abolissent un petit peu cette barrière qu'il y a, au niveau du journalisme, les gens se disent, voilà, ce mec, de toute façon, ne va pas me mentir, puisque on a une relation de confiance, j'ai l'impression qu'il a une relation de confiance avec moi, qu'il me dit les choses de toute façon, il est capable de dire du mal de certaines choses, voilà.
Ah, comme c'est ça, journaliste, hein, voilà. Corrompu.
Donc c'est aussi ce rapport-là, en fait, à la personne que les gens vont chercher d'un point de vue du marketing, parce que forcément, les gens se disent, mais oui, mais de toute façon, il va me dire la vérité, c'est normal, c'est un mec qui est comme moi. C'est assez pervers comme système.
Tout à fait. Bon, nous allons passer à la suite, mon cher Morren.
Oui.
Et nous allons parler des Pokémons. Alors, les Pokémons, ils ont organisé un tournoi, il paraît.
Mm-hmm.
Peux-tu nous en parler?
Ah, plus qu'un tournoi d'ailleurs, parce que d'habitude on a l'habitude de parler du championnat du monde de Pokémon qui se déroule dans des destinations assez exotiques. Là, on est en train de lancer en fait plusieurs tournois internationaux qui vont se dérouler sur Internet avec cette magnifique technologie qui est le Wi-Fi et Internet sur 3DS. Sauf que là, en fait, on va permettre aux dresseurs de Pokémon de s'affronter sur des formats un peu originaux, avec un contexte parfois assez étrange, notamment le 6 et 8 juin, il y a une compétition qui s'appelle le Think Fast, donc c'est-à-dire pense rapidement, avec donc le principe de un seul Pokémon contre un seul Pokémon, donc pas une équipe. Et l'idée, en fait, c'est que chaque partie doit durer moins de 10 minutes. Et donc, vous avez très très peu de temps pour faire vos choix, d'où l'aspect du penser rapidement.
Je suis pas sûr que ça donne des résultats très brillants, mais...
Non, mais en fait, j'ai un peu peur qu'on soit sur une compétition de gros billes, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce Pokémon marche contre tous les autres. Et ben, on va le faire s'affronter contre un autre Pokémon qui marche contre tous les autres, et ça va être assez passionnant. Donc, du coup, bon, c'est des formats assez... pourquoi pas, hein, mais j'ai un petit peu peur que ça fausse un petit peu tout le classement, parce que dans ces tournois-là, ça vous permet de gagner des points pour vous inscrire au championnat du monde. Qui, avant les inscriptions, c'était voilà sur des tournois classiques, au même format que le championnat du monde. Donc là, forcément, quand on ajoute des points sur des compétitions plus variées, et peut-être un petit peu plus fun, on va dire, notamment par exemple le tournoi qui ne fait que s'affronter des Evoli et des évolutions d'Evoli. Voilà, ça typiquement c'est des trucs un peu sympas, mais c'est pas... j'ai pas l'impression que ça soit très 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 sérieux en termes de stratégie et en termes d'intérêt pour les dresseurs. Donc voilà, c'est sympa parce que ça dynamise un petit peu la scène Pokémon, la scène de l'e-sport entre guillemets autour de Pokémon.
Entre gros guillemets, hein.
Mais voilà, typiquement un tournoi avec que des Pokémon de type fée. Ouais, je doute un petit peu de l'intérêt, si tu veux, parce que voilà, c'est typiquement des matchs d'une demi-heure où les mecs vont perdre deux points de vie par deux points de vie. Ça doit être très très lourd à mon avis, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, si ça a du succès.
Tiens d'ailleurs, t'en vas pas tout de suite, Morren, autant ouais. Jeter sous la main là, parce que c'est pas sûr qu'on l'ait, voilà. Pokémon, Ruby, Saphir, les remakes, tout ça, ouais. Tu en penses quoi?
Bah écoute, j'en pense que c'est le seul Pokémon auquel j'ai pas joué. Le seul RPG Pokémon auquel j'ai pas joué, donc forcément ça m'intéresse. Généralement les remakes de Pokémon sont très bien faits. Parce qu'ils ajoutent pas mal de choses et notamment la compatibilité avec les versions les plus récentes. Ils ajoutent aussi des donjons, des voilà un certain nombre de Pokémon, des choses assez cool pour un fan.
Là en plus il y aura la 3D.
Voilà, j'attends évidemment d'en voir plus parce que concrètement on a eu qu'une annonce là. Ça fait un peu chiche en termes d'information, mais oui, bah c'est le Pokémon annuel. Si ça peut être un remake d'un jeu qui est très bon, je suis heureux. Et ça nous évitera aussi de faire des échanges complètement abracadabrants pour avoir tous les Pokémon dans une seule version. Parce que là, actuellement, en fait, pour avoir les Pokémon de Ruby et Saphir, il faut avoir une GBA, balancer tes Pokémon sur un jeu DS
et les ensuite rebalancer.
Les balancer sur un autre jeu DS qui est compatible avec un jeu 3DS. Donc je vous raconte même pas le bordel. Et voilà, si Nintendo pouvait m'écouter et mettre plus de place dans le PC de stockage et qu'on puisse véritablement avoir tous les Pokémon dans la même version, ça m'arrangerait. Merci beaucoup.
Oh, mais surtout, c'est ridicule, cette histoire, franchement. Enfin, ouais, bref.
C'est beaucoup trop con.
Toujours, au milieu des tournois, bon, sauf que là, c'est pas tout à fait la même ampleur, on va dire. Ne serait-ce que parce que y a beaucoup de cachets à gagner, n'est-ce pas?
Oui, c'est franchement, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à Pokémon. Hein.
C'est plus du sérieux business, quoi, on va dire. L'International 2014, donc c'est le tournoi de Dota 2, n'est-ce pas? Mm-hmm. Qui a fait parler de lui cette semaine. Pourquoi? Parce que il a un prize pool qui est assez énorme. Donc je rappelle, le prize pool, hein, c'est le total de la somme qui va être partagée entre le premier, le deuxième, le troisième, etc., quoi. Enfin, entre les principaux gagnants, quoi. Et donc le prize pool de Dota a dépassé les 5 millions de dollars. Il va probablement dépasser les 6.
Wow.
Alors, comment ils ont financé ça? Parce que finalement, c'est le plus intéressant, en fait.
Oui.
Je rappelle donc que Dota 2 est un free-to-play,
mm-hmm.
et que l'argent dans Dota 2, contrairement à League of Legends, ne se gagne pas en achetant des personnages, par exemple, mais en achetant que du cosmétique, en fait.
D'accord.
Donc, changer la tronche de ta monture, parce qu'il y a des montures qui te livrent des items, etc.
Mm-hmm.
Changer le look de tel ou tel héros, ce genre de choses, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place pour ce tournoi un petit livret qui est téléchargeable dans le jeu qui s'appelle le Compendium. Et donc, quand tu achètes le Compendium pour 7€ et quelques, tu as des espèces d'achievements que tu vas pouvoir débloquer en jeu. Et en fait, ces achievements vont te débloquer un certain nombre de points. Et à partir de 100 points, tu vas gagner un niveau. Et
d'accord.
Donc, tous les 100 points, tu vas gagner un niveau. Et à chaque fois, en fait, tu vas débloquer de nouvelles choses. Ça peut être un nouveau screen de chargement, ça peut être un nouveau skin pour ta monture, ça peut être un item mythique. Alors, les items mythiques, c'est les items rares, normalement, mais là, d'accord. On va dire que, vu le nombre de personnes qui ont acheté le truc, ils oui. vont pas être si rares que ça, quoi. Mais
c'est clair.
Enfin, voilà, ça te permet de débloquer du contenu en jeu, et en fait, l'argent qui a été dépensé sur ce compendium va directement dans le prize pool de la compétition, en fait.
Mm-hmm.
Je trouve ce modèle économique très intéressant, en tout cas. Déjà parce que c'est pas du pay to win. Tu débloques que du cosmétique.
C'est clair.
Par exemple, je vois, j'ai donné de l'argent pour le compendium. Pas forcément parce que je suis intéressé par le contenu, parce que je veux dire, je n'achète jamais de cosmétique dans Dota 2.
Mm-hmm.
Mais parce que je me suis dit, bon, alors, ce jeu, j'y ai joué combien? 300 heures? Ok. 300 ouais. heures, ça vaut peut-être le coup quand même de leur donner 7€, tu vois, pour... récompenser le nombre d'heures passées sur le jeu à minimum.
Ouais, c'est clair.
Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là et qu'il y en a d'autres de toute façon qui sont addicts, n'est-ce pas,
ouais.
aux items, qui veulent avoir des persos tout jolis, etc. Et donc voilà, tout le monde est content. Et ça fait aussi pas mal de pub à Dota parce que là tout le monde se dit « Oh mon Dieu, 6 millions de dollars, c'est le plus gros ouais. prize pool qu'on a jamais vu dans l'e-sport. Hein, » je veux dire,
bah, d'ailleurs, c'est Valve bat encore son propre record. Il l'avait en 2011, en 2012 et en 2013, et à chaque fois ça se comptait en millions de dollars. Pourquoi ça marche? C'est parce que les gens contribuent en fait au prize pool, mais en plus ils gagnent quelque chose. C'est-à-dire que ils donnent, mais ils ont quelque chose en retour. Et donc ça permet très facilement. Et puis le seuil d'entrée est pas forcément très élevé. Tu m'as dit 7€, c'est voilà. Et on se rend compte que voilà, les gens sont très intéressés par ça, et donc il y a des gens qui sont dans ta situation évidemment, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la situation dans l'autre situation que tu disais, c'est les gens qui ne peuvent pas se passer de tout ce qu'il y a autour de Dota 2
et même qui sont tout simplement addicts aux achievements, hein, parce que je vois des posts sur Steam, tu sais, que sur un jeu quand il sort et qu'il n'y a pas d'achievement, on se dit quoi, il n'y a pas d'achievement.
Ouais.
Ce que je trouve intéressant par rapport aux achievements, c'est qu'ils poussent à s'intéresser à la compétition aussi. Par exemple, il y a un achievement qui fait donc que tu peux faire tes prédictions sur qui va gagner la compétition.
Ouais.
Et si t'as bon, t'auras des points en plus, tu vois. Ou il y a plein de trucs comme ça qui te poussent à regarder des compétitions aussi, regarder X match et puis vous aurez tant de points. Ils ont vraiment créé une dynamique que je trouve très intéressante, et encore une fois, c'est d'autant plus intéressant que derrière, contrairement à League of Legends ou qui est un peu un pay to win sur les bords, quoi, là,
oui.
ils arrivent à dégager pratiquement 6 millions de dollars de revenus juste avec de l'esthétique.
Ouais, c'est assez fou. Respect. Non, mais c'est bien vu. Après, de ce que j'ai lu, il y a aussi des choses qui sont un petit peu moins marrantes, parce que je sache, il y a aussi des choses qui sont en jeu qui sont promises en fait aux gens qui contribuent au compendium, notamment des modes de jeu en 1v1 ou un truc dans ce genre-là, et qui sont débloqués tellement rapidement en fait que Valve a du mal à les incorporer tout de suite en fait dès que c'est débloqué.
Les items mythiques dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont toujours pas en jeu. Hein. Voilà.
Ce que je trouve dommage, c'est que ça soit pas développé avant.
Ouais.
Parce que bon, concrètement, ça me paraît assez évident en fait qu'ils vont réussir à les avoir, les achievements les plus hauts. Donc du coup, ils devraient de toute manière penser à les incorporer en fait avant de balancer le compendium en fait. Parce que ça peut décevoir les gens un peu.
En plus, il y a possibilité d'acheter des points. Là, ouais. C'est le revers de la médaille un peu, mais bon, moi je trouve ça pas tellement scandaleux du moment que ça ne donne pas des avantages absolument ignobles en jeu, quoi. Donc il y a plein de gens qui ont forcément sorti la carte bleue, je veux dire.
Oui, c'est sûr.
Bon, c'est la news de la semaine, hein, très clairement.
Oui.
La Xbox One qui laisse tomber Kinect.
C'est plutôt Microsoft qui dit « Oh, sauf qu'il peut !» Bah, c'est ce que j'ai appelé le doigt d'honneur de la semaine. C'est-à-dire que non seulement Microsoft annonce en fait que une nouvelle version entre guillemets de la Xbox One va sortir d'ici le 9 juin, je crois, non, le 6 juin, pour le prix absolument magnifique de 399€, le tout livré sans Kinect. Bon, c'est difficile comme gestion parce que ça arrive 6 mois après l'arrivée de la console et 6 mois après qu'il y ait des gens qui ont acheté leur console à 500 balles alors qu'ils se foutent totalement de Kinect. Moi, j'ai mon petit frère qui a acheté une Xbox One avec Kinect. Kinect ne marche pas chez lui. Mais je te raconte même pas comment il est dégoûté. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième, c'est Microsoft qui, une fois qu'on lui a demandé, en fait, est-ce que vous prévoyez des compensations pour les gens qui ont acheté la Xbox One à 500€ avec Kinect, Microsoft de répondre, non, on ne prévoit rien du tout, puisque selon nous, l'expérience avec Kinect est l'expérience premium, donc vous avez bien fait de l'acheter à 500€. Voilà. Le double petit doigt d'honneur, là, c'est bon, assez génial.
Bah, après, je voudrais quand même faire une remarque. Je veux dire, quand tu claques 500 balles pour une console, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui t'intéressait dessus, quoi.
Ouais, non, c'est clair.
Tu diras à ton petit frère de ma part, ça ne dépasse qu'on claque 500€ dans une Xbox One, hein, mais ça, c'est mon avis personnel.
Je veux dire,
il n'y a aucun jeu dessus. Tu fais quoi avec elle fait chauffage, c'est ça, peut-être? Je ne sais pas.
Elle fait chauffage et elle augmente tes factures d'électricité. Ça, c'est génial.
Non, mais voilà, à un moment donné, on sait tous qu'il ne faut jamais acheter une console Day One, sauf si vraiment il y a le jeu qui fait que tu veux pas, je peux pas me passer ce jeu. Sauf que moi là sur la Xbox One, j'ai un peu de mal à voir le jeu là, mais bon, c'est un autre débat. Surtout que là, 500€, je veux dire, quand tu dépenses cette somme-là, à un moment donné, c'est que t'as les moyens. Hein. Ou alors, si ton petit frère a mis, a visé son compte en banque pour ça, à un moment donné, il va falloir que tu l'engueules parce qu'il y a un problème, quoi.
C'est pas faute de l'avoir prévenu, en plus, hein, parce que moi, je lui dis, de toute façon, si tu dois en prendre une, prends la moins chère, parce que c'est exactement la même offre. Mais bon, bref, il a fini par l'acheter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est son argent. Mais voilà. Oui, voilà, on est d'accord. Enfin, moi, j'ai encore une fois eu confirmation de ce que je pensais, c'est-à-dire que voilà, c'est une erreur d'acheter une console aussi chère au lancement, surtout quand il y a rien dedans. Voilà, c'est. Et je suis même pas surpris en fait qu'ils baissent le prix. Enfin, c'est même pas une baisse de prix puisque concrètement ils ont juste enlevé Kinect.
Bah, disons qu'ils ont réaligné leur offre par rapport à la PlayStation 4, c'est tout.
Voilà.
D'où le titre de ma news, Microsoft se couche face à la PlayStation 4, c'est tout. Point. Enfin, c'est pour ça. Hein, y a pas besoin de chercher à midi à 14h. Les mecs avaient un boulevard par rapport à Sony qui avait un mal fou à approvisionner les magasins. Et là, Xbox One n'en profite pas.
Ouais.
Donc à un moment donné, ça veut dire quelque chose, quoi. Je veux dire. Parce que moi, fondamentalement, moi, je pense qu'ils ont pris la bonne décision, là. Bon, la vraie bonne décision, ça aurait été de faire ça il y a 6 mois au lancement. À un moment donné, voilà. Donc, ils ont pris acte de la situation. Et ils ont décidé, tout simplement, d'arrêter les frais. C'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Et je pense, sincèrement, que de toute façon, ils n'avaient pas le choix.
Oui.
Parce que, actuellement, qu'est-ce qui se passe? ils ont pas tellement plus de jeux que sur PlayStation 4.
Non.
Faut dire ce qui est.
Mais ils en ont même moins, hein, d'ailleurs.
Ils sont plus chers.
Mmh.
Pas mal de gens n'en ont strictement rien à cirer de Kinect.
Oui.
Et surtout, c'est comme le putain de gameplay asymétrique de la Wii U, ils n'en ont rien foutu de Kinect. Enfin, mmh. Moi, à un moment donné, je veux dire, je ne comprends pas les stratégies des constructeurs. On sait tous très bien que les éditeurs tiers, ou même les développeurs indés, c'est pareil, les développeurs indés, c'est exactement la même chose. Mmh. Ils sortent leurs jeux sur 36 000 plateformes, ouais. Et que le fait de sortir le jeu sur PC, sur Xbox One, sur PlayStation 4, sur Xbox 360, sur PlayStation 3, à un moment donné, ça fait que tu n'exploites pas les spécificités des consoles.
Oui.
Donc on le sait, bordel, on le sait que les éditeurs tiers ne vont pas exploiter ces machins, quand bien même sera-t-il inclus dans la console. Sauf si tout le monde se met à faire du motion gaming, tu vois, ce qui n'est pas le cas.
Ouais.
Donc à un moment donné, on le sait et on le fait quand même. Faut être con, quoi, c'est quand même le gameplay asymétrique, bordel. Je veux dire, à part Nintendo qui peut l'exploiter. Donc voilà, donc si Microsoft voulait que les gens exploitent Kinect, bah à un moment donné, il fallait qu'ils fassent les jeux eux-mêmes, j'ai envie de
bien
dire.
Sûr.
Et moi, ce qui me dépasse, c'est que là... On verra avec la news de Halo, ça va être la même chose tout à l'heure. Hein.
Mm.
Mais on a Microsoft qui lance une console qui est soi-disant basée sur Kinect.
Mm.
Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que en termes de jeu, tout du moins, il ne se passe que dalle. Ils n'ont rien foutu. Je veux dire, même leur projet, là, Rise, qui à la base devait être un jeu dédié à Kinect,
c'est vrai.
Ils ont retiré Kinect. À un moment donné, je veux dire, mais évidemment que ça marche pas. D'autant plus que la stratégie de Microsoft, on le sait, c'est d'être le media center au milieu du salon.
Oui.
Et pour ça, donc, ils ont basé toute leur stratégie sur l'interface et donc Kinect. Mm. Sauf qu'il y a un souci, c'est que au milieu du salon, il y a un truc qu'on appelle la télévision, et plus précisément, il y a des nouvelles télévisions qu'on appelle donc la Smart TV, voilà, qui fait que t'as un truc multimédia qui est déjà au milieu de ton salon, qui s'appelle la télévision. Mm. Et d'autant plus que aux États-Unis, je veux dire. C'est pas l'Europe, ils ont tous Netflix là-bas.
Ouais.
Et que les Smart TV, ça le gère très bien Netflix. Donc à un moment donné, si ton but c'est de faire de la télé, hein, je vous rappelle
c'est vrai.
La conférence, bah ouais, mais il y a déjà un truc qui fait ça, ça s'appelle la télé. Et malheureusement pour eux, de ce que j'ai compris, les Smart TV ça marche bien apparemment aux États-Unis. Donc voilà, ils ont peut-être cru que comme c'était pas l'Europe et qu'il y avait pas de box, ben ça allait marcher. Sauf que malheureusement pour eux, il y a un truc qui s'appelle les Smart TV qui est sorti aux États-Unis, quoi. Donc résultat, ça fait quoi ? Ça fait qu'on a une Xbox qui est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle propose, et que du coup les gens achètent pas évidemment. En plus, t'as vu la situation économique, je veux dire, mais les gens vont pas claquer 500 € dans un appareil juste comme ça, quoi. À un moment donné, faut. Mais déjà 400 €, je trouve ça cher.
Ouais.
Alors 500 €, mais il faut juste redescendre sur terre, quoi.
Ouais, c'est clair. Non, mais moi, mon seul regret, c'est que ça arrive trop tard, en fait, parce que c'est dommage. Mais s'ils avaient pris acte en fait de cette situation et si c'était pas entêté sur Kinect, alors qu'on savait pertinemment que ça allait pas mobiliser les foules, surtout quand on l'utilise pas comme ça. C'est juste trop con, en fait, ce qu'ils ont fait. Mais bon, ça fait longtemps qu'on le dit. Je comprends pas exactement où est-ce qu'ils voulaient en venir. Est-ce qu'ils se sont dit que, voilà, c'est notre killer app, mais on va pas faire de jeu dessus, ça va quand même se vendre. Enfin,
Moi, je pense que les jeux, ils s'en foutaient, en fait. C'est vraiment, ils pensaient que tout le côté multimédia allait vendre la console, en fait. Sauf qu'ils se sont rendu compte que, malheureusement, les seules personnes prêtes à claquer 500 €, c'est les gens comme ton petit frère qui sont des gamers et qui veulent jouer juste à la console, qui s'en foutent de Kinect, en fait. Et que ces gens-là, en face, ils ont quoi ? Ils ont une PlayStation 4 qui vaut 399 €, qui est plus puissante, parce qu'il faut le rappeler quand même, parce que là, ils ont réduit le prix au même prix que la PlayStation 4, mais ça ne change rien au fait que la PlayStation 4 est techniquement plus puissante. Donc, comme les seules personnes qui peuvent booster les ventes sont celles qui sont le moins intéressées par Kinect.
Ouais.
Bah forcément, à un moment donné, voilà quoi. Ou alors il fallait qu'ils le sortent comme ça, mais au prix de la PlayStation 4.
Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'offre pour casu sur Kinect. C'est-à-dire que même comment ça s'appelle ça, le Kinect Sports Champions et l'autre truc qu'ils ont sorti au lancement, ça ne marche pas. Donc J'ai essayé en plus, hein. Ça ne fonctionne pas ce truc. Il y a même pas de jeu qui pourrait intéresser les casus en fait. Donc je vois pas l'intérêt en plus de débourser 500 balles pour ça. Enfin c'est voilà. Moi je franchement j'espérais que en 2013 et en 2014 des constructeurs de consoles soient un tout petit peu plus intelligents que ça. Mais en fait finalement ils ont laissé couler la situation quoi.
Bon, après, moi, je serais pas aussi pessimiste que toi, parce que on a bien vu, par exemple, que la PlayStation 3, qui avait très mal démarré,
oui.
Au final, elle s'est plus vendue que la 360.
Bon, après, faut quand même rappeler que la Xbox One, c'est quand même 4 millions d'unités vendues en 6 mois. C'est pas un four, hein.
C'est juste qu'ils se font piler par Sony, c'est tout. Bien sûr. Voilà. Et que, là où c'est un mauvais signe, c'est que encore, on parlait de l'Europe et du Japon, là. Normal, je veux dire l'Europe, en particulier la France, bon, c'est PlayStation, oui. Quoi. Bon, il y a l'Angleterre, mais ça c'est un cas à part. Les Anglais, c'est un peu des Américains pour moi de toute façon. Hein, ces gens-là, ils sont pas vraiment européens. Mais même aux États-Unis, qui était vraiment la place forte Microsoft, ils sont en train de se faire piler, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème.
Ouais, non, c'est clair.
Il faut réagir maintenant, parce que s'ils réagissent pas après. Ça sera trop tard. Là, pour le coup, ça sera beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, heureusement qu'ils ont réagi maintenant, j'ai envie de dire.
Mais est-ce que tu penses que cette réaction suffit?
Non, parce que ce qui suffira, c'est quand il y aura les jeux, en fait.
Voilà.
Techniquement, là, Sony a juste à faire une chose, rappeler que là, ils ont la console la plus puissante et que, à ce prix-là, bah, autant prendre la console la plus puissante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait sur leur compte Twitter, hein. Surveillez le compte Twitter de Sony France, des fois ils balancent des trolls, mais c'est assez, ils ont bien trollé, là, quand ils ont fait cette annonce-là.
La violence.
Mais ils ont raison, de toute façon, ils ont la meilleure offre actuellement.
Bien sûr.
Il y aurait les jeux. Parce que, encore une fois, il y a plein de jeux qu'on a vus à l'E3, etc. Bon, il y a des Drazine qui est sorti, mais je veux dire, quand tu regardes vraiment le catalogue dans le détail, pour moi, dans les deux cas, de toute façon, il n'y a rien qui justifie qu'on dépense 4 euros dans ces consoles-là, en ce qui me concerne.
Hormis un pari sur l'avenir, quoi, mais enfin, c'est...
Ça fait cher le pari sur l'avenir. Hein.
Non, on est d'accord. Non,
moi,
mais autant attendre...
Il y a déjà des jeux qui m'intéressent, en tout cas.
Autant attendre, dans 2 ans, elles seront à 350-300 euros, et au moins, il y aura un catalogue intéressant, quoi.
Voilà. Moi, ça me dérangera pas hein, d'acheter des consoles neuves, c'était moins cher.
Ouais, non, mais c'est clair. Mais honnêtement, moi, je sais plus. Non, j'étais plus PS4 à l'époque. J'aurais acheté la PS4 s'il y avait eu un jeu qui m'intéressait, tu vois. Mais actuellement, il y a aucun jeu qui m'intéresse sur PS4. Et même chose sur Xbox One, d'ailleurs. C'est dommage, mais bon, après, est-ce qu'on est vraiment surpris? Non, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe sur un lancement de console, de toute façon.
Non mais de toute façon voilà, t'as vu la lumière, tu vas jouer sur PC, puis c'est tout, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, il faut qu'on prépare ton nouveau PC Modern, s'il te plaît.
Bah oui, bah bientôt. Bientôt. Très bientôt, parce que j'ai bientôt l'argent, donc.
Ok, nous allons, toujours chez Microsoft, parler des remakes HD de Halo. Alors c'est une rumeur qui est sortie cette semaine. Pourquoi cette rumeur est prise au sérieux? Parce que il y a notamment une des personnes qui avait annoncé qu'il y aurait des trucs sur Halo 5 cette semaine, qui a dit que ces rumeurs étaient vraies. Il y aurait donc des remakes HD pour Halo 1, 2, 3, 4. Alors, moi, ce qui me dépasse, c'est le 4, remake HD. Donc, à mon avis, ça va être juste, on va le passer le jeu en 1080p, quoi. Enfin, si on a de la chance. en tout cas, un remake du 2 et du 3, ça me dit pas mal si c'est des vrais remakes comme le premier. Ouais. Après, si c'est juste un peu dit ça, là, pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Hein, mais
Non, c'est clair. Mais je suis assez d'accord avec toi. Le premier remake HD était plutôt bon. Je l'avais testé à l'époque de sa sortie. C'est assez intéressant, mais du coup, je me demande si on va pas se retaper le 1 juste comme il l'était avant, quoi. Enfin, comme on va se retaper la collection HD du 1, et il va pas y avoir de nouvelles avancées de ce côté-là sur Xbox One. Donc, on va se retrouver avec un truc un peu bancal, à mon avis. Le 2 étant mon préféré de la série. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment sympa avec. Moi, je m'attendais à ce qu'il publie, en fait, le 2 en mode on attend Halo 5, et ensuite qu'il continue, tu sais, avec un Halo par an, en HD, avec Halo 3. Mais finalement, si la rumeur se vérifie, on aura le 1, 2, 3, 4 dans la même collection HD, ce qui peut être un bon plan pour ceux qui n'ont jamais joué à Halo, mais ils doivent pas être très nombreux. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Le 4, quid du 4. À mon avis, ça va juste être un portage. Je doute qu'il soit beaucoup plus beau que ce qu'on avait. C'était quand? C'était il y a un an et demi qu'on a vu Halo 4, qui est magnifique d'ailleurs sur Xbox 360. Ça m'étonnerait qu'il soit bien plus poli que ça pour la Xbox One. Donc j'ai un petit peu peur de la collection au rabais, parce que on a eu des rumeurs il y a 6 mois à peu près qui faisaient état d'un Halo 2 en HD, et là ils auraient eu le temps de bien le travailler, bien faire un remake comme il se doit, comme c'était le cas avec Combat Evolved il y a quelques années. Là, si on fait les quatre en même temps dans une seule collection qui devrait sortir, j'imagine, à l'automne 2014, il y a moyen qu'il y en ait un qui soit la dernière roue du carrosse, quoi. Donc bon, je suis un petit peu j'ai un petit peu de doute concernant cette collection HD, qui de toute façon ne m'intéresse pas, puisque je les ai déjà tous sur Xbox 360 et Xbox.
D'autant plus que, pourquoi on pense que ça va sortir en 2014? Parce que il va falloir faire patienter les gens, n'est-ce pas?
Oui.
Parce que Halo 5, on va pas l'avoir tout de suite.
Non, ça sera à l'automne 2015, donc il va falloir attendre très très longtemps. plus d'un an et demi, pour avoir Halo 5, qui s'appelle désormais Halo 5 et Guardians, les gardiens. On a eu juste un artwork du jeu, et c'est à peu près tout.
C'est juste qu'apparemment, il y aura un nouveau héros, peut-être, vu qu'il y a un autre Spartan que le Master Chief,
voilà,
qui est en une, quoi, on va dire.
Donc, pourquoi pas. Mais il va falloir nous faire patienter entre les deux, et donc, à mon avis, c'est pour ça que la thèse de la collection HD d'Halo sur Xbox One est intéressante, et en tout cas probable. C'est qu'il va falloir vraiment nous trouver quelque chose à nous mettre sous la dent, surtout parce que la Xbox One, je le rappelle, n'a rien de prévu d'ici la fin de l'année. Hein. C'est ça qui fait assez flipper. Alors bon, on attend le 3 évidemment.
Ouais, parce que il y a quand même tous les jeux qu'ils avaient montrés à l'E3 l'année dernière,
voilà,
notamment le jeu de Remedy, etc.
Ouais.
Donc on se doute. Enfin, on espère en tout cas,
ouais,
que ça arrivera d'ici de la fin de l'année, tous ces jeux-là, quoi.
Donc bon, après le jeu de Remedy, ça m'étonnerait que ça soit la killer app de la fin de l'année, mais pourquoi pas. Mais bon, évidemment, le 3 c'est dans 2 semaines et demie à peu près. On aura plus de news de ce côté-là. J'espère quand même qu'on va avoir quand même des nouvelles d'Halo 5 cet été quand même, pour qu'on sache ce qu'on attend à peu près. donc voilà, c'est peut-être
cas,
intéressant pour les gens.
J'espère qu'ils vont pas nous la faire à la Nintendo, rendez-vous,
ouais,
en 2015.
ça franchement, ça serait chaud, hein, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait pas de jeu qui nous ont annoncé en 2013 qui ne soit pas reporté, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y aura un report, mais bon, il faut quand même qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent cet automne pour
Surtout que, je veux dire, les éditeurs tiers sont pas en super forme non plus, quoi.
Ouais.
C'est pas la folie, quoi. Il y a Destiny qui va sortir, mais Destiny, il me semble qu'il est cross-gen, hein, j'ai un doute.
Oui, oui.
Donc, Far Cry 4, dont on va reparler après, je suis pas sûr qu'il soit pas cross-gen non plus.
À mon avis, si. Hein.
Donc, à un moment donné, des vrais jeux next-gen,
ouais, mais
voilà, quoi.
Là j'ai vraiment l'impression que les éditeurs tiers sont en train de penser leur plaie en mode on sort de toute façon le jeu sur cross-gen, ou on prépare un jeu Xbox 360 et un jeu Xbox One pour essayer de temporiser au niveau des ventes, ce que fait Ubisoft avec les Assassin's Creed, puisqu'il y aura Assassin's Creed 5 Unity, mais il y en aura un autre qui sortira sur Xbox 360 et PS3. Donc voilà, on est dans une période assez étrange sur le jeu vidéo, c'est-à-dire que les éditeurs tiers rechignent vraiment, j'ai l'impression, à donner tout ce qu'ils ont sur la nouvelle génération, ce en quoi ils ont pas tort, hein, parce que le parc de consoles d'ancienne génération est quand même bien plus intéressant pour eux que le parc actuel des consoles de nouvelle génération. Mais là, très clairement, j'espère qu'ils vont sortir leurs grosses cartouches à l'E3, parce que pour le moment, de mémoire, il n'y a pas grand-chose qui sort à cet automne, quoi. Donc, hormis le Call of Duty 15, et Assassin's Creed, heureusement. Voilà, pour le moment, il y a rien qui me vient en tête comme gros jeu sur Xbox One et PS4.
Surtout que je rappelle que c'est les mêmes éditeurs tiers qui réclamaient à corps et à cri la nouvelle génération. Bon, oui. Elle est là, les gens. Et faites des choses maintenant dessus, merci. Allez, d'ailleurs, on parlait de Far Cry 4, donc ouais. 20 novembre 2014, comme je le disais, avec Vladimir Poutine en couverture.
Dégueulasse, l'affiche, d'ailleurs.
Franchement, c'est ridicule, hein. Je veux dire, le mec habillé en rose...
Il est bien cross-gen, hein. Je viens de vérifier...
Ah, c'est sûr qu'en tout cas, ça a tout de suite moins de classe. Bon, après, il va falloir voir le jeu d'acteur, hein, mais ça a moins de classe que le méchant de Far Cry 3 pour le moment.
Donc, on rappelle que Far Cry 4 se déroulera dans l'Himalaya. Et il y aura des éléphants.
Wouhou! The Future, c'est un peu comme le chien, tu vois, dans
c'est ça.
Call of, les éléphants, le chien. Bon, sinon t'en attends quelque chose ou
Ah, pas du tout. Moi, tu sais, Far Cry, j'ai encore joué à aucun Far Cry, donc le 4 pour le moment ne m'en touche une sans me faire bouger l'autre. J'attends surtout de voir les trailers de gameplay et probablement les démonstrations en live de l'E3. Pour être un petit peu plus intéressé par le jeu, mais s'il y en a un que je devais acheter, ça serait surtout Far Cry 3, en fait.
C'est ce que j'allais dire, en fait, quand Far Cry 4 sortira, tu seras sur le 3 en occasion.
Exactement. C'est l'idée.
Bon, allez, c'est tout pour l'actualité cette semaine. Nous allons passer au jeu du moment, c'est un jeu Lego, et ça s'appelle Lego Seigneur des Anneaux.
When the fate of Middle-earth is at stake, a fellowship of 9 heroes will rise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm pretty sure it was 9. Where's number 9? Well... They'll get the hang of it.
Lego Seigneur des Anneaux, c'est un jeu qui est sorti en octobre 2012. De mémoire. Donc voilà, on est au top de l'actualité.
Info à la pointe de l'actualité.
Exactement. On est au taquet. Bon, c'est évidemment un jeu de la franchise pléthorique Lego qui adapte de façon souvent humoristique les derniers films, enfin souvent les sagas les plus intéressantes. Donc on a eu Star Wars, on a eu Pirates des Caraïbes qui était un gros four, on a eu Batman, Indiana Jones, Harry Potter évidemment. Bref, tout ça c'était des jeux plutôt intéressants, plutôt cool, souvent drôles. Et j'attendais de voir ce qu'allait donner le Seigneur des Anneaux, parce que étant grand fan de la Terre du Milieu, je voulais savoir ce que ça donnait. Et le jeu est plutôt cool. Ça ne bouleverse pas la structure habituelle d'un jeu Lego.
Alors, est-ce que tu peux la présenter pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Lego, n'est-ce pas ?
Alors, c'est tout simple. Vous prenez les scènes du film les plus connues et les plus intéressantes ou les plus palpitantes, et vous mettez tous les personnages, vous les transposez en Lego, un petit personnage Lego, avec toujours des traits d'humour, des gags, des trucs un petit peu foireux, mais souvent drôles, et vous avez tout ça entrecoupé de niveaux, évidemment, des niveaux souvent d'action, où vous devez récolter un certain nombre de pièces de Lego pour terminer le jeu à 100%, par exemple.
C'est de l'action-aventure, en gros.
C'est très clairement de l'action-aventure, avec de temps en temps des petites énigmes qui cassent pas trois pattes à un canard, parce que on parle quand même à un public jeune, un public d'enfants, et de grands-enfants, me concernant. mais voilà, c'est très clairement des jeux qui sont pas forcément très très durs, mais qui vous permettent, en fait, d'explorer les grandes sagas du cinéma de façon différente, avec donc des personnages qui ont tous des capacités spéciales qui vous permettent en fait de débloquer certains passages de niveau, et très souvent une fois que vous avez terminé le jeu, vous en êtes à peu près à 30% de complétion du jeu, et il va vous falloir en fait recommencer certains niveaux pour débloquer d'autres passages, etc., etc., une fois pour arriver à 100%.
Alors, en dehors du côté fanboyesque de la chose, ouais. Je voulais te demander, alors, pour quelqu'un de toi qui est autant overbooké, hein,
ouais,
je peux en témoigner, qu'est-ce qui peut bien te pousser à vouloir jouer et terminer, surtout parce qu'il a terminé quand même, un jeu comme celui-là? Qu'est-ce qui est fait que, ben voilà, quand même, c'est suffisamment sympathique, en tout cas pour qu'on te pousse jusqu'au bout, alors que tu as un catalogue sur Steam,
ouais,
qui continue d'empiler les jeux non finis, n'est-ce pas? Pourquoi ce jeu plutôt qu'un autre?
Celui-là parce que je l'avais commencé il y a longtemps et que j'avais pas eu voilà, il faut bien commencer par un jeu à terminer, tu vois ce que je veux dire. Mais non, bah déjà le fait de redécouvrir la saga et le fait que le jeu s'articule sur 18 niveaux qui sont tous liés les uns aux autres en fait par un espèce de hub central qui est la Terre du Milieu. Et ça, c'est une nouveauté en fait sur les jeux Lego, c'est-à-dire qu'en dehors des niveaux, vous avez toute la carte de la Terre du Milieu qui vous est accessible et que vous pouvez explorer à loisir et découvrir un certain nombre de secrets cachés. Et ça donne un côté très addictif au jeu. Qui n'est pas seulement en fait, je me rappelle par exemple à l'époque de Lego Star Wars, vous aviez un hub qui c'était la cantina en fait de Mos Eisley, où vous choisissiez un niveau et pour aller dans un autre, il fallait revenir à la cantina et choisir un autre niveau.
Ouais, c'est là, un menu qui ne disait pas son nom, quoi.
Exactement. Et là, très clairement, on est dans un truc beaucoup plus intéressant, un monde semi-ouvert, on va dire. Où vous pouvez en fait vous balader tranquillement et découvrir un certain nombre de passages secrets en fonction des personnages que vous avez. Et donc c'est d'autant plus intéressant une fois que vous avez terminé le jeu, parce que vous pouvez vous déplacer librement en Terre du Milieu et voilà, de retrouver tous les personnages, débloquer toutes les recettes de d'outils, etc. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose, dans une aventure assez longue. Une fois qu'on a terminé l'aventure de base, l'histoire qui est somme toute assez courte, 18 niveaux qui font à peu près une demi-heure chacun. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est plutôt agréable à consommer, en dehors de certains niveaux qui, selon moi, ne sont pas très intéressants. Notamment des niveaux, c'est souvent les niveaux où on incarne Frodon et Sam.
Comme dans le film, quoi, en fait, ils ont été très respectueux de l'œuvre originale.
Exactement. C'est-à-dire que le problème de Frodon et Sam en termes de gameplay, c'est qu'ils sont en permanence en train de se cacher. Et du coup, ça donne des niveaux qui sont sans cesse entrecoupés de moments où tu dois te cacher des Nazgûl. Et voilà, c'est pas très intéressant et ça coupe l'action et c'est
il y aurait eu moyen de faire un gameplay à infiltration intéressant.
Oui, mais là pour le coup c'est pas ça l'est
ça
pas,
l'est pas.
Parce que c'est-à-dire que tu bouges, tu fais une énigme, tu résous une énigme, derrière t'as un Nazgûl, il faut que tu te caches. T'attends qu'il passe, tu marches, tu résous une énigme, il y a le Nazgûl qui repop. Tu te caches, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu commences à te faire chier, quoi. Tu te dis, putain, c'est quand la bataille du gouffre de Helm, quoi. Donc du coup, voilà, il y a des niveaux super sympas. Typiquement, la bataille du gouffre de Helm, la bataille de Minas Tirith, la bataille de la Porte Noire, etc., etc. Tout ce qui est, en fait, avec les personnages d'action. En revanche, voilà, c'est assez fidèle, comme tu le dis, sur les passages très chiants des films et donc du jeu. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez inégal, on va dire, sur les différents niveaux, mais à la fois ça a toujours été le cas dans les Lego qui sont adaptés de films, c'est que si tu veux suivre à la lettre le scénario et les scènes les plus fortes, t'auras toujours un truc bien chiant à faire en fait dans un Lego. Donc voilà, c'était présent dans Lego Star Wars par exemple, l'épisode 2, la course poursuite en taxi, c'est complètement pourri dans le film et c'est complètement pourri dans le jeu. Bon, donc voilà, j'ai envie de dire c'est un peu le lot de tous les jeux Lego malheureusement.
Ça manque d'un travail de relecture qui serait nécessaire pour le format jeu vidéo. Quoi.
C'est ça. Mais en dehors de ça, les scènes d'action sont souvent très bien réussies. La bataille de la Moria par exemple, très sympa. Donc on est dans quelque chose de globalement assez agréable à jouer pour en tout cas un fan du Seigneur des Anneaux qui a envie. De se relancer dans la Terre du Milieu sans pour autant se retaper 9 heures de film, quoi.
On est bien d'accord que ça se passe par rapport au film et pas par rapport au bouquin, justement.
Non, par rapport au film, pas par rapport au bouquin, même si on a la présence clin d'œil de Tom Bombadil, c'est, voilà, très clairement, c'est les films et rien d'autre. D'ailleurs, à savoir que les personnages Lego parlent dans ce jeu, je suis pas sûr que ça soit la première fois, mais... c'est bon de le noter, ce qui n'était pas le cas dans les Star Wars, par exemple, où là, très clairement, on a les scènes du film, mot pour mot. Alors malheureusement, c'est pas les mêmes acteurs, mais voilà, on a les mêmes scènes de dialogue dans les cinématiques, ce qui est plutôt agréable pour le fan.
Bon. En gros, à réserver aux petits et aux grands-enfants, n'est-ce pas?
Ouais, aux petits et aux grands-enfants, les grands-enfants qui doivent être fans quand même du Seigneur des Anneaux, parce que
oui,
sinon...
évidemment.
Sinon, ça n'a pas d'intérêt, hormis pour la collectionnite, mais bon, vous avez d'autres jeux qui peuvent...
oui, quand même.
...s'occuper de ce genre de problème.
Voilà, bon, quelque chose à ajouter, Mavren?
Non, mais tu vois, par exemple, le Seigneur des Anneaux, c'est très bien. Par contre, le Lego Hobbit, je crois que je vais passer mon tour. Déjà, le Hobbit, je suis beaucoup moins fan que... Enfin, en tout cas, les films, le Hobbit, je suis beaucoup moins fan que les films, le Seigneur des Anneaux. Et je pense que ça ferait trop redite, maintenant que je viens juste de terminer le Lego Seigneur des Anneaux. Et j'ai du mal à m'imaginer, en fait, les scènes du Hobbit en Lego... Sachant que les films sont souvent très très répétitifs en termes d'action, je me demande si c'est très intéressant.
Surtout que le Hobbit, ça n'a jamais été une débauche d'action par rapport au Seigneur des Anneaux, quoi. À un moment donné, je veux dire...
Cela dit, le premier et le deuxième Hobbit sont très marqués par l'action. Et c'est d'ailleurs
je parle du livre, je parle pas du film.
Ah, voilà. Oui, mais là, vu que c'est adapté des films, il y aura de l'action partout, mais...
Non, mais j'essaie, tu vois, d'extraire de ma mémoire certains passages des films.
Oui, tu as raison.
Interminable action, 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 action. Mais c'est pas le Seigneur des Anneaux, on s'en fout. Action, 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 action.
Du coup, j'ai un petit peu peur du Lego Hobbit et je vais le laisser de côté. Par contre, je suis plus intéressé par le Lego Marvel Super Hero. J'ai testé la démo et qui est plutôt cool d'ailleurs, donc je verrai peut-être pour une prochaine fois.
T'es vraiment un sale fanboy, hein.
Ouais, t'as vu ça.
Bon, je te propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, mon petit Mordren. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin pas Mordren parce que lui sera pas là, hein,
effectivement.
Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.
Salut à tous.